Nous sommes en compagnie de Laurent Fréchuret, metteur en scène, et Thierry Gibault, comédien, pour la pièce « Une trop bruyante solitude » de Bohumil Hrabal, qui est tchèque. Alors, ce texte, il me semble que c'est Thierry Gibault qui, la première fois, l'a présenté à Laurent Fréchuret. Alors, comment ça s'est passé? Ensuite, vous avez eu envie de le mettre en scène?
Eh bien, c'est simple. On jouait le Roi Lear de Shakespeare au théâtre de Sartrouville, il y a 10 ans, en 2007. Et Thierry Gibault, pour la première, m'offre un petit cadeau. Une fois que j'enlève le papier cadeau et que je vois que c'est un bouquin, je regarde et je découvre un auteur que j'aimais beaucoup, que j'avais lu 20 ans avant ou 10 ans avant, et que j'avais oublié d'une certaine manière, parce que je rêvais d'en faire une adaptation pour le théâtre. Mais c'était un autre roman du même auteur, de Bohumil Hrabal, et c'était ce livre un peu emblématique, puisque l'auteur a dit « Si je suis venu au monde, c'est pour écrire une trop bruyante solitude, pour écrire ce livre ». Et donc Thierry m'offrait ce livre, mais je crois qu'il l'avait offert, il me l'a avoué après, à d'autres metteurs en scène, avec le désir secret que celui-ci percute, et le désir et l'envie de l'adapter et de le proposer à Thierry. Et moi j'ai lu le livre et j'ai été tout à fait percuté, oui, direct, par la chose. Et donc j'ai adapté le roman et on l'a monté. Et ça fait donc quelques années qu'on le joue avec plaisir, avec bonheur, parce que cet auteur est fou, est complètement démesuré, baroque, tragicomique, et que c'était un inventeur formidable qui a fait toutes sortes de métiers d'ailleurs, avant d'être écrivain, dont celui de presseur de papier et de passer au pilon aussi tous les écrits interdits par un régime dictatorial, et où il va devenir un résistant malgré lui, résistant par le plaisir de lire, de penser, d'inventer toutes les œuvres qu'il doit détruire, et bien il les lit avant. Et il va devenir une sorte de bibliothèque vivante qui va devenir un peu l'espoir du monde. Et c'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle Anta, que Thierry Gibault incarne avec grand bonheur.
Alors justement, du coup, on peut dire que ce personnage, ça peut être un double de Bohumil Hrabal.
Oui, Bohumil Hrabal a fait donc plein de métiers, comme disait Laurent, et dont celui-là. Oui, donc c'est vraiment quelque chose qu'il connaît. Il a été cheminot, il a fait du théâtre, il a fait plein de petits boulots, presseur de papier, évidemment. Voilà. Donc c'est un observateur. Il allait beaucoup dans les bistrots, il observait les gens, il écoutait, il notait. Il buvait beaucoup de bière. Il connaissait vraiment les métiers manuels, et donc il sait de quoi il parle, quoi. Voilà, absolument.
Oui, et alors, ce qui est original, c'est que le rôle de Anta, en fait, c'est quelqu'un qui donc est un ouvrier, il presse des livres, mais un ouvrier cultivé.
Alors, moi je suppose, j'ai l'impression que c'est un autodidacte comme ça, un type. Alors on ne sait pas pourquoi d'un seul coup il découvre les livres, il s'intéresse à Kant, à Nietzsche, à Lao Tzu. On n'a pas l'historique de ça, mais c'est un homme qui est effectivement un ouvrier qui est dans une cave, qui est maculé de crasse et qui s'élève à la lumière. C'est assez beau d'ailleurs, l'homme du sous-sol, l'homme de la cave, qui est plein de lumière, quoi. Alors, on ne sait pas s'il a fait des études, il ne le dit pas. En tout cas, c'est un amoureux des livres. Et voilà, et c'est effectivement tout à fait possible, j'imagine, d'aimer les livres sans avoir fait d'études, hein. Il n'y a pas de, voilà. Mais c'est pas dit. Je pense que c'est à mon avis, c'est quelqu'un qui a dû tomber un jour, qui a dû avoir un déclic, et puis un choc, et il s'est mis à rentrer dans la lecture, dans la littérature, dans les œuvres, dans l'art, et à s'enrichir, à comprendre que c'était là. Le moyen de se sauver, de sauver le monde, si le monde y adhère.
Oui, parce que finalement, il doit mettre les livres donc, dans une presse et les broyer, mais en fait, il en garde quelques-uns pour chez lui, et finalement, chez lui, il a comme une sorte de bibliothèque.
Oui, c'est-à-dire qu'il les emmène chez lui, il les lit, et après, il les élimine, il le dit dans le roman. Alors effectivement, il est possible qu'il en garde chez lui, puisqu'il a des tonnes de bouquins au-dessus de sa tête, au-dessus de son lit, donc forcément, il ne les presse pas tous. Il en garde, effectivement. Il en embarque, il les lit, il en détruit, mais il en garde beaucoup aussi. Il est en ce sens, il est dans l'illégalité totale, hein, absolument.
Et aussi par n'importe quel livre, puisque c'est des livres de sagesse de l'humanité, les philosophes, les grands philosophes, de la pensée, voilà. Dangereux pour un régime.
Oui, dangereux pour un régime.
Ce que je trouve beau, c'est que justement, il devient le réceptacle de choses qui d'habitude restent peut-être cloisonnées dans leur discipline. Je trouve ça très très beau, peut-être parce qu'on fait du théâtre et qu'on essaye de décloisonner les genres des fois. Mais il arrive à mélanger en lui l'autodidacte ouvrier, autant la poésie, la philosophie, que la peinture. Et ça, c'est intéressant. Parce que tout à coup, il fait dialoguer autant un Jésus-Christ, qui est carrément un prophète, voire le Fils de Dieu, avec Lao Tzu. Mais on sent qu'il pourrait faire dialoguer Picasso avec Rimbaud, etc. Et donc ça, c'est très beau aussi. Et ça rejoint finalement ce que Rimbaud disait quand il dit qu'il faut arriver à trouver même une couleur voyelle. C'est-à-dire qu'il décloisonne tous les genres. Il n'a pas d'a priori, il n'a pas de chapelle. Et ça, c'est très très beau. Il prend, lui, toute la beauté et la connaissance du monde. C'est autant de la pensée que de la sensibilité, de l'intelligence que de la sensation. Et je trouve ça très très beau qu'il devient une espèce d'endroit tellurique dans un petit bonhomme comme ça, un petit ouvrier au fond d'une cave. Il y a tout à coup un cosmos qui est en train de se recréer alors que le monde est en train de brûler. On essaye de détruire le monde. Il y a tout un univers, mais peut-être dans un tout petit endroit et à nouveau l'infini. Et ça, ça rejoint vraiment à des choses que Thierry d'ailleurs connaît bien et aime bien, cet infiniment petit qui ressemble à l'infiniment grand, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est vertigineux et que Rabal arrive d'une façon extrêmement populaire et drôle. Alors ça, c'est un grand poète. Il arrive à dire des choses vertigineuses, extrêmement pointues, intelligentes, mais d'une façon qui embarque, j'espère, en tout cas le public.
Il n'a pas une approche professionnelle des matières qu'il aborde, sectaire. Il a une approche véritablement sensuelle. Donc la littérature, la peinture, on sent bien la façon dont il en parle. Et ça n'empêche pas d'accéder au sens. Mais c'est avant tout un homme de la matière et du sens, quoi. Et donc, effectivement, il croise, il relie. Voilà, il relie tout et il cloisonne pas, comme disait Laurent. Il divise pas, voilà.
Oui, alors en quoi est-il donc Rabal prophétique par rapport à notre monde 2.0 justement ? Parce que là c'est écrit dans les années 70.
Oui, on parle souvent de Bernard Noël qui disait « à la censure d'hier a suivi la censure d'aujourd'hui », censure avec un S, cette fois aujourd'hui c'est la perte de sens. Il disait qu'avant on brûlait les livres, que Hitler et Mussolini... Alors Pasolini dit un peu la même chose. Bon, on peut discuter de tout ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est intéressant d'entendre qu'à une censure et un fascisme d'hier... succède un fascisme autre, celui de notre monde consumériste et qui, sous un aspect plus démocratique, va peut-être quand même arriver à des catastrophes peut-être très très graves, écologiques ou d'uniformisation, de mondialisation, de consommation, de course à l'argent, qui vont faire que la pensée ou les bouquins vont être de plus en plus bêtes. On aura du mal à trouver un bouquin, même s'il n'est pas interdit ou brûlé. Ce bouquin, on peut l'acheter, mais on n'aura même plus envie de l'acheter. Et si on le lit, on n'aura même peut-être plus les moyens de le comprendre. Alors c'est ce que disent certains auteurs, c'est intéressant en tout cas à débattre, et c'est sûr qu'il y a un nouveau danger. Et donc il parle de ça, la presse de Bubny dont il parle, qui est une presse moderne qui va empêcher même de lire les bouquins interdits, puisque ces bouquins seront tout de suite recyclés sous forme de papier blanc, puis les ouvriers n'auront même plus envie de se salir les mains, d'une certaine manière, de se salir les neurones aussi. Donc voilà, il parle un petit peu d'un monde où tout deviendrait aseptisé, on n'aurait même plus le désir de se révolter.
Oui, c'est ça, parce que justement, dans la pièce, les ouvriers qui vont le remplacer, voilà, ils vont boire du lait à la place de la bière, et ils n'auront aucune envie d'aller voir effectivement qu'est-ce qu'il y a dans les livres. Et d'ailleurs, on montre même à des élèves comment déchirer un livre.
Ça fait penser à 1984, au meilleur des mondes, ou à Fahrenheit 451, toutes ces thématiques-là, oui, bien sûr. Ça permet d'une façon joyeuse d'essayer de tirer la sonnette d'alarme.
Oui, c'est ça. Les livres sont détruits par des gens qui ne lisent pas et donc qui ne connaissent pas aussi la Grèce, la mythologie, tout ça. Voilà, c'est tout est relié. Donc lui, il rêve d'aller en Grèce. Il n'a jamais eu le moyen de le faire. Il raconterait aux Grecs leur histoire parce qu'il la connaît par cœur. Et donc, voilà, ça fait partie d'un effondrement, quoi, d'un horizon pour lui terrible.
Oui, ça fait 7 ans, je pense, que cette pièce tourne. Voilà. Quelles ont été les adaptations, peut-être, de mise en scène depuis toutes ces années ? Comment, dans un premier temps, avez-vous pensé ce personnage et comment a-t-il évolué ?
Je pense qu'on a été tout de suite très près de ce qu'on voulait, de ce qu'on fait maintenant au niveau du jeu d'acteur, de l'adaptation, du propos, de ce personnage, de ces idées qu'il y a là-dedans et du jeu. Ce qui a beaucoup évolué, c'est la scénographie qui était beaucoup plus importante et on a, au fil des ans, décidé de faire une forme beaucoup plus radicale. Et Thierry a proposé à un moment d'être vraiment immobile sur une palette, donc toute la classe ouvrière symbolisée par une palette d'ouvriers, qu'il a lui-même peint. Il a peint lui-même son costume, parce qu'il fait de la peinture aussi, Thierry. Il a fait une sorte de Pollock, de costume à la Pollock. Et j'ai trouvé que c'était tout aussi efficace, voire plus efficace encore et pertinent. En tout cas, ça nous permet aussi de tourner le spectacle, parce qu'on veut que ça soit un acte comme ça, poétique, direct, quoi, action directe, qui était plus lourd et plus difficile à jouer partout, s'il y avait la forme scénographique plus lourde. Et finalement, là, en le voyant ce soir, je me dis que vraiment, c'est encore plus fort quand c'est comme ça, poussé jusqu'au bout de sa radicalité.